Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost. Bienvenue à Entretien journalistique. Bienvenue donc à ce 9e épisode de notre série Entretien journalistique, donc des entrevues avec des personnalités importantes du journalisme d'ici et d'ailleurs. Et aujourd'hui, nous dirigeons vers l'ailleurs, vers l'étranger, si l'on peut dire. Mon invité en direct de Paris est Linda Achour. Bonjour Linda.
Bonjour Hugo.
Alors Linda, vous êtes évidemment journaliste, vous avez été journaliste au Québec aussi, vous avez été également animatrice radio. Donc vous avez eu un parcours quand même assez atypique peut-être. Parlez-nous un peu de ce qui vous a motivé d'abord pour vous lancer en journalisme.
C'est vrai que c'est un parcours assez atypique. Alors j'ai 23 ans et j'ai cette passion pour le journalisme depuis que j'ai 12 ans à peu près. Et c'est surtout en voyant David Pujadas, qui est anciennement présentateur du téléjournal en France, que j'ai eu cette envie-là. Et à l'époque, en fait, il y avait ma mère qui me ramenait le journal et je m'enregistrais avec un petit micro de karaoké pour écouter les infos, disons. Et j'ai toujours eu, en fait, cette envie-là d'aller sur le terrain et de raconter aux gens ce qui se passe. De raconter aux gens ce qui se passe dans des endroits où ils n'ont pas forcément accès. Et c'était tellement une énorme passion, en fait, que j'ai eu peur de me lancer directement là-dedans. Et c'est pour ça que j'ai d'abord opté pour des études en communication avec des stages dans différents médias avant de me lancer finalement dans le journalisme à mon arrivée à Montréal. Voilà.
Et pourquoi d'ailleurs, pourquoi avoir franchi l'océan pour venir étudier à Montréal?
En fait, c'était le certificat de journalisme proposé par l'UDM. Et en voyant un peu les cours qu'ils proposaient, je me suis rendu compte qu'on était vraiment loin de la théorie, mais plutôt il y avait beaucoup de pratiques, de choses concrètes. C'est ça qui m'a plu. Et j'aimais pas trop, en fait, à cette époque, hein, les études de journalisme en France. D'où le fait d'aller à Montréal. Je pouvais autant prendre des cours de photographie, de radio, de presse. Et c'est ce qui me plaisait, cette polyvalence-là.
Et justement, on n'a pas trop l'occasion ici de parler un peu de la formation qui se donne ailleurs en journalisme. Est-ce que vous pourriez peut-être prendre quelques instants, nous décrire, vous disiez, bon, l'instant, la formation offerte en France vous plaisait moins, vous plaisait certainement moins que celle qui était offerte par l'Université de Montréal. Qu'est-ce qu'il y avait comme différence? Vous avez parlé, bon, du côté pratique des cours, mais au-delà de ça, est-ce qu'il y avait vraiment une différence marquée là, dans la façon d'enseigner le journalisme?
Ben, alors, je vais vous dire tout ça, et en plus de ça, je vais même me contredire à un certain moment. le truc, c'est qu'en France, il y a une dizaine d'écoles de journalisme reconnues, que ce soit par l'État ou par la profession. Et ce qui se passe, c'est que les concours d'entrée ne sont pas du tout adaptés à la pratique journalistique. Et c'est pour ça que récemment, là, ça date, je crois, de la fin d'année 2017, le CFJ, donc le Centre de formation des journalistes qui se trouve à Paris, a décidé un peu de changer son concours d'entrée en étant plus en phase avec la réalité du métier. C'est-à-dire que les candidats vont davantage parler de ce qu'ils ont fait en termes de journalisme, de leurs travaux. Et on est moins dans ce truc-là de trucs hyper académiques, en fait, où on va vouloir faire un questionnaire, apprendre par cœur l'actualité ces 6 derniers mois et finalement faire un truc hyper copier-coller et sans passion, quoi. Donc, il y a le CFJ qui a changé ça. Et sinon, là où je vous disais que j'allais me contredire, c'est que si je suis finalement de retour à Paris, c'est pour faire une école de journalisme qui s'appelle l'ESJ Lille, qui est pas mal réputée. C'est l'ESJ Lille Pôle Montpellier avec une filière radio en alternance. Et du coup, voilà, il y a quand même ce truc-là de pratique et théorie qui m'intéresse pas mal.
D'accord. Donc, de retour à Paris, donc de retour en France. Vous êtes en ce moment, bon, journaliste pour la radio UGOP, radio... Est-ce qu'on peut parler de radio communautaire, radio locale?
Exactement. On aime dire que c'est une radio de proximité, que c'est la radio du 12e arrondissement de Paris. Et bah, si vous, est-ce que je peux en parler un petit peu?
Oui, absolument. Ben, en
Ouais.
fait, bon, nous, encore une fois, de Montréal, du Québec, on connaît peut-être un peu moins les réalités des différents arrondissements parisiens. J'ai eu l'occasion, bon, d'écouter certains extraits là, qui sont disponibles en ligne. Ça semble être un quartier, on peut peut-être parler d'un quartier, assez multi-ethnique. Est-ce que c'est bien
Exactement.
ça?
Totalement. Bah, écoutez,
D'accord.
même de loin, vous y connaissez plutôt bien. Le 12e, c'est l'un des plus grands arrondissements de Paris en termes de surface. Et c'est vrai que cet arrondissement a la particularité de regrouper des gens de différentes classes sociales, autant des personnes très très riches que des personnes plutôt en difficulté. Et tous ces gens-là se mélangent dans le 12e. Et donc Hugop, c'est avant tout une association, et c'est en arrivant dans le 12e que les fondateurs, donc Oswald Mavungood et Salima Dreeder, se sont dit que ce quartier est tellement riche en termes de culture, de diversité, qu'il faut réunir tout ça autour d'une radio de proximité. Et voilà, c'est le nouveau projet du 12e.
D'accord. Et donc cette radio, si on peut peut-être aller dans le côté un peu plus technique, terre à terre, est-ce que c'est financé par l'État? Est-ce que c'est financé par des mécènes? Comment est-ce que ça fonctionne?
Alors, vu que c'est une radio associative, l'association a elle-même des subventions qui viennent du 12e, de l'État, et la radio fait partie de ces subventions-là, même si on garde une ligne éditoriale indépendante, et à part l'équipe, personne n'a son mot à dire sur les émissions.
D'accord, donc, mais bon, en même temps, le financement de la presse en France, c'est quelque chose d'établi, là, c'est pas quelque chose qui est récent du
Ah
tout.
oui, c'est pas une surprise, pas du tout. Et par contre, ce qui change de plus en plus, enfin, il faut d'abord préciser aux gens qui nous écoutent au Québec que le paysage journalistique en France est quand même très particulier. Les Français se méfient énormément des journalistes, et c'est pas pour rien que les journaux indépendants ont un véritable succès. Les gens préfèrent lire des journaux indépendants, que ce soit presse écrite, à la radio, etc. C'est ce qui marche le mieux, disons.
Donc, effectivement, le journal indépendant, bon, il y a eu tout récemment Mediapart, entre autres, qui a fait les manchettes. On a eu le Canard enchaîné, si je ne me trompe pas d'ailleurs, qui avait sorti plusieurs scandales sur le candidat de la droite aux dernières élections présidentielles
Effectivement, oui.
françaises. Donc, voilà. Si on peut peut-être poursuivre un peu plus là, sur justement le paysage médiatique français, un peu plus peut-être du côté de l'emploi. La France, bon, qui fait partie de ces pays où, si ma mémoire est bonne, il faut avoir une carte de journaliste pour pratiquer le métier. Est-ce que c'est toujours le cas?
Alors, je suis très contente que vous me posiez cette question-là. La carte de presse en France pose beaucoup de problèmes. C'est Libération qui en a parlé dans un article en mai dernier. Avoir cette carte de presse-là est un peu compliqué. Il faut prouver que pendant 3 ou 6 mois, je ne sais plus, le journalisme vous a apporté plus de 50% de vos revenus. Et à partir de ce moment-là, on vous donne la carte de presse. Sauf que vous imaginez bien que pour un jeune journaliste qui vient de se lancer, freelance en plus, imaginons, c'est très compliqué. C'est un secteur bouché. Et je parlais de l'article dans Libération, un quotidien français. Il y a aussi un gros problème qui se pose. C'est pour notamment les photographes, les reporters de guerre, qui se rendent dans des zones de conflit sans carte de presse. Et en fait, c'est un scandale parce que du coup, il n'y a plus cette protection-là. Et beaucoup de journalistes demandent en fait à la CCIJP, donc la Commission de la carte d'identité des journalistes professionnels, de changer les conditions pour obtenir cette carte ou pour renouveler cette carte de presse. Et c'est une des grosses différences avec le Québec où je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'au final, n'importe qui peut être journaliste. C'est bien ça?
Effectivement, bon,
Oui.
il n'y a pas de comme tel. Il y a eu un débat quelques années sur la possibilité d'émettre. En fait, c'est un débat qui revient périodiquement, mais il y a quelques années, il y avait eu un rapport qui portait entre autres sur des conclusions, c'était qu'il fallait émettre des cartes de presse. Et bon, ça impliquait nécessairement d'avoir une formation un peu plus centralisée. Et à ce moment-là, c'est un peu mort de sa belle mort, là, de ce côté-là. Il n'y a pas réussi à y avoir d'entente entre les patrons, entre les journalistes et entre le gouvernement. Donc, ça a été tabletté, comme on dit au Québec, ça a été remisé. Et on n'en parle plus.
D'accord.
Parliez quelques instants du métier de correspondant de guerre. On a eu l'occasion, bon, avant l'enregistrement d'aujourd'hui, d'échanger un peu sur votre parcours. Et vous me disiez justement que vous aimeriez être correspondante de guerre. Pourquoi?
Ah, c'est une grosse question. Pourquoi, je sais pas. Je vous admets que on ne se réveille pas un matin en se disant, tiens, je vais être journaliste de guerre. Pourtant, c'est peut-être un peu ce qui s'est passé. J'ai une sorte de passion inexplicable pour les zones de guerre où, en fait, on est tellement habitué aux morts, à une actualité triste et sombre. Ce qui est le plus vendeur en fait dans la presse, c'est quand il y a des morts, etc., etc. Et là, on est en 2018, on en est rendu à un point où, quand on voit il y a eu 5 000 morts à Kaboul, ben on dit ouais, ok, et on passe à l'actualité suivante en fait. C'est devenu normal. Et je pense que si j'ai envie d'être correspondante de guerre, c'est peut-être parce que je suis un peu utopique et je me dis. Je pense que voilà, être journaliste, c'est aussi se dire qu'on a ce pouvoir-là de changer les choses. Il y a beaucoup de personnes oubliées, de par notamment les nombreuses guerres qui ont lieu partout dans le monde encore maintenant. Et c'est une façon de, je sais pas, je me dis rappeler certains trucs, remettre de l'humanité dans ces endroits-là et donner la parole aux oubliés, aux opprimés.
Bon, correspondant de guerre, ça a toujours été un métier difficile, mais depuis quelques années, on semble y constater une détérioration, si on veut, de la situation sécuritaire, même pour les journalistes. Bon, même certains régimes, certaines armées vont même cibler spécifiquement les journalistes,
Effectivement.
pour en faire un exemple, peut-être. Est-ce que c'est quelque chose qui, malgré tout, vous dites, bon, ben, je vais quand même me lancer, dans le métier?
Mais alors justement, je pense que c'est d'autant plus quelque chose qui me donne encore plus envie de me lancer dans ce métier-là. C'est que, vous l'avez rappelé à juste titre, il y a des zones qui sont tellement dangereuses pour les journalistes que les rédactions préfèrent, à juste titre, ne pas envoyer leurs journalistes sur place. Parce que voilà, la sécurité avant tout. Sauf que dans ces zones-là, il y a de la. Enfin, il faut en parler, il faut se rendre sur ces endroits, dans ces endroits-là, il faut parler de ce qui se passe pour pas que ce soit des endroits oubliés sur Terre. Il faut se préparer, il faut penser à sa sécurité, j'entends bien, mais justement, je trouve ça quand même inconcevable qu'on ne puisse pas faire ce métier-là d'informer les gens parce que des personnes en ont décidé ainsi et. Voilà, en prenant toutes les précautions nécessaires, il faut parler de ce qui se passe. Il ne faut pas juste oublier des endroits parce qu'on ne peut pas en parler, parce qu'on n'y a pas accès.
Est-ce que c'est un métier que vous aimeriez entreprendre comme pigiste, comme ben en fait pigiste étant la traduction québécoise de freelancer, si on veut
On dit
bien.
aussi pigiste en France.
Ah bon, parfait. Est-ce que c'est quelque chose que vous feriez comme pigiste ou est-ce que vous aimeriez plutôt rejoindre les rangs d'un grand média, par exemple, et de dire, bon, ben, je profite des ressources et peut-être même justement des assurances, de l'accompagnement sécuritaire, de tout ce qui vient avec un média qui a plus d'argent?
Bah vous avez la réponse dans votre question. C'est vrai que l'idéal, ce serait de partir avec une rédaction derrière, notamment pour la sécurité. Sauf que ce qui se passe, c'est que c'est un milieu précaire. Les rédactions ont de moins en moins de budget. Et justement, la première cause de ce manque de moyens-là, ça va être envoyer ou non les journalistes à l'étranger. Et au final, on préfère reprendre des images plutôt que d'envoyer un journaliste sur place. Après, il y a aussi l'autre réalité. Il y a de plus en plus de jeunes journalistes pigistes qui vont dans ces endroits-là par eux-mêmes. Ils économisent assez d'argent, ils vont sur le terrain sans sécurité et ensuite, en revenant, ils essayent de vendre à droite à gauche leur sujet, quoi.
Mais est-ce que c'est pas justement un peu plus facile quand même? On dit effectivement ça va coûter beaucoup d'argent, mais les moyens de production d'aujourd'hui sont beaucoup plus abordables que par le passé. Et bon, on décide de partir en situation de conflit. On n'a pas nécessairement besoin d'amener avec nous un caméraman, par exemple, ou d'un photographe. On peut, bon, avec des résultats peut-être à l'avenant, mais on peut quand même utiliser, par exemple, son téléphone cellulaire pour filmer, pour photographier, pour enregistrer. Est-ce que c'est pas quand même un avantage de dire, bon, ben, on peut partir comme pigiste et dire, j'ai pas besoin d'amener le camion de matériel avec moi?
Bien entendu, mais encore une fois, si jamais il vous arrive le moindre souci sur place, bah, pour le coup, vous êtes tout seul. Il n'y a pas cette rédaction derrière qui peut faire pression, qui peut vous soutenir, qui peut vous rapatrier. Voilà, c'est aussi une assurance. C'est-à-dire que quand on décide d'aller dans une zone de conflit, c'est dans le but soit d'être sur place, d'en parler, soit de revenir avec un sujet. Mais l'idée, c'est pas de se mettre dans cette situation-là où on ne pourra pas en revenir pour en parler.
Si vous me permettez, on va revenir en France sur la question des aides financières de l'État, parce que bon, ici, c'est également un débat qui fait rage, peut-être avec moins d'importance peut-être qu'en France, parce que bon, ici, la situation n'existe pas à la base nécessairement. Mais bon, vous êtes une jeune journaliste, vous êtes une journaliste de la relève, vous travaillez dans un média qui, on peut qualifier, un nouveau média, même si l'organisation existe déjà, bon, la radio UGOP, c'est tout récent. Comme on disait tout à l'heure, il y a une aide de l'État à certains médias, il y a une aide de l'État, bon, au Grand Quotidien, par exemple. Est-ce que, d'après vous, il devrait y avoir une aide pour les nouveaux médias, pour les blogs, pour les webzines et autres?
C'est compliqué comme question. On parle beaucoup d'indépendance. La plupart des médias, c'est des actionnaires qui vont aider. Pour d'autres, ça va être l'État qui va cotiser. Et il y a ces médias indépendants qui vont essayer de faire appel à leurs lecteurs, à leurs auditeurs pour contribuer et faire vivre le média. Je vous avoue que, sans parler du GOP Radio, moi, j'aurais plutôt tendance à dire que la situation idéale, ce serait un média qui va se gérer par lui-même, qui va faire appel aux auditeurs, etc., qui va vivre de cette façon-là. Après, la réalité, c'est pas ça du tout. Et pour parler du GOP Radio, on a effectivement cette chance-là d'être soutenu de façon financière, ce qui nous a permis d'acheter le matériel nécessaire, etc. Mais on a également cette chance d'être indépendant dans notre contenu. La ligne éditoriale de la radio, c'est ce que j'ai fait pendant un mois, et il n'y avait personne derrière moi pour me dire « non, ça tu fais pas », ou au contraire, il faut absolument créer une émission spéciale pour inviter Madame la maire ou pour inviter telle ou telle personne. J'ai toujours eu cette liberté de parler des sujets qui vont intéresser les gens du 12e, mais aussi ailleurs, avec une liberté total.
On parle de radio, évidemment, un média qui existe depuis, bon, à peu près une centaine d'années, sinon plus. Puis, bien entendu, on pourrait parler des journaux qui existent depuis beaucoup plus longtemps encore. Mais est-ce que vous avez, bon, encore une fois, vous qui de la relève, vous constatez qu'il y a une transformation technologique ou, je ne veux pas dire idéologique, mais transformation peut-être de la façon de voir la radio, ou est-ce qu'on est encore dans le même média qui est avec nous depuis, bon, justement, depuis un siècle?
Mais ce qui est génial, en fait, dans le média radio, c'est que c'est un média d'habitude. Le matin, quand on écoute la matinale, on sait que lorsqu'il y a cette chronique qui passe, on doit être en train de se brosser les dents ou on doit être déjà sur le chemin pour aller au boulot. Et je suis tombée sur une étude il y a quelques semaines qui parlait justement de cette méfiance des Français vis-à-vis des médias. Et disons que le seul média qui n'est pas touché par ça va être la radio. Parce que la radio, c'est ce truc-là instantané, c'est le média d'accompagnement. C'est-à-dire que c'est pas comme quand on va être face à un article où il va falloir être concentré, lire l'article de A à Z ou du moins en diagonale. La radio, c'est vraiment le bruit de fond qui va accompagner notre journée, notre trajet. Et c'est aussi, l'exemple n'est pas très joyeux, mais quand il y a eu les attentats à Paris en novembre 2015, le premier réflexe de beaucoup de gens, c'était allumer la radio. Pas la télé, mais la radio, parce qu'on sait que ça va être de l'instantané, que ça va être réel. Et je pense notamment à France Info, c'était les premiers en fait à en parler. Après, pour aller un peu plus loin que le média radio, depuis que je m'intéresse au journalisme, bien sûr qu'il y a une évolution qui est incroyable. Et alors du coup, quand Trump est arrivé au pouvoir aux États-Unis, j'étais au Québec, et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a eu un tournant dans le monde du journalisme. Ça veut dire que tout d'un coup, on était face à un chef d'État qui va préférer parler sur Twitter, à lui-même ou aux autres, peu importe, plutôt que de faire appel aux journalistes pour s'adresser au peuple. En France, c'est pareil. Enfin, pendant la campagne présidentielle de Macron, c'était le premier à dire presque qu'il adorait les journalistes. Et pourtant, l'affaire Benalla qui fait la une partout en France en ce moment, il y a quelques jours, quand Macron s'est adressé à la presse, il n'a pas hésité une seule seconde à taper sur les doigts de la presse. C'est devenu vraiment le bouc émissaire par excellence. Et bref, tout ça pour dire que vous avez d'un côté le pouvoir politique qui est entré en guerre, disons-le clairement, avec les médias. Et y a les médias de leur côté qui essaient de faire leur boulot, quand bien que mal, de continuer en fait à informer correctement les gens. Et y a un sujet dont je voulais vraiment parler avec vous. Lors d'un ancien entretien journalistique avec Jeff Yates, je crois, il parlait des fausses nouvelles. Et en France, en fait, les médias, disons, se sont mis à la page. Il y a par exemple Libération qui a lancé Check News, donc un site internet qui va démêler le vrai du faux pour être sûr que c'est une vraie nouvelle ou non. Il y a France Info qui a lancé son magazine d'actualité Le Vrai du Faux. Et il y a bien entendu les décodeurs du Monde qui essaient de rendre justice en fait à l'information en cassant en fait toutes les mauvaises nouvelles et toutes les fake news.
Parfait. Donc, dans cet effort donc, de lutte contre la fausse information, de lutte contre les pouvoirs peut-être aux tendances autoritaires, bon, la radio, comme vous le disiez, se positionne comme média. On peut dire peut-être même média d'avant-garde. Bon, quand on pense aux podcasts, par exemple, qui sont de la radio, finalement, qui sont une version peut-être, une version évidemment qui n'est pas en direct d'habitude, mais qui sont quand même un média parlé, donc média écouté surtout.
Et en fait, au podcast, au balado, bon, au Québec, ça fait des années et des années que ça existe, c'est pas nouveau, alors qu'en France, c'est quelque chose qui est apparu, il y a 2-3 ans, et encore plus ces derniers mois. Y a un truc qu'on se dit entre nous, c'est qu'à Paris, en fait, il y a tous ces bobos parisiens qui vont se lancer dans le podcast pour parler de leur passion. Donc, vous avez tous les Parisiens qui vont avoir leur podcast. Et en s'éloignant du journalisme, vous avez aussi maintenant des marques qui vont utiliser le podcast comme outil marketing pour promouvoir leur marque. Donc, c'est utilisé vraiment comme...
C'est donc comme véhicule publicitaire, ouais, là, pour... Pas de problème. Parlant de, bon, vous disiez, tous les Parisiens vont avoir leur podcast. Vous aurez également votre podcast. Ça me permet de faire une belle transition. Vous aurez effectivement donc votre podcast prochainement qui s'intitule 747, le Québec à Paris. Une Parisienne temporairement québécoise, redevenue parisienne, qui revit un peu ses souvenirs du Québec. Est-ce que c'est un peu une bonne façon de le
Alors, je n'aurais
présenter
pas dit
ou...
mieux. Alors, l'idée de ce podcast est venue en parlant avec Marie Chabot-Johnson, qui travaille à CKVL FM. On a eu l'occasion de travailler ensemble quand j'ai dû couvrir l'élection municipale qui a lieu à Montréal pour Choc.ca et CKVL FM. Et en fait, on s'était dit, bah, pourquoi pas faire quelque chose pourquoi pas faire quelque chose en lien avec le Québec, mais à Paris? Et donc c'est quelque chose que les Québécois pourront écouter à partir de septembre sur CKVL FM et un podcast aussi diffusé sur iTunes, SoundCloud, etc. C'est vrai que l'idée, c'est que... D'ailleurs, je vais aussi me permettre de vous poser une question. En France, depuis plusieurs mois, toutes les semaines, il y a au moins deux ou trois magazines télé, deux ou trois journaux dont la une, c'est l'Eldorado du Québec, les Français qui s'installent à Montréal, etc. Donc, je ne sais pas du tout si vous, au Québec, vous le voyez, ça, mais ici, c'est quelque chose d'assez fou quand même.
Il y a toujours quelques Français ici et là à Montréal, mais bon, pas nécessairement de vagues d'immigration de notre côté. Bon, on a eu récemment, on peut dire peut-être la performance un peu ratée d'un chroniqueur radio d'ailleurs qui nous parlait de Montréal, parlait d'un guide touristique montréalais. Et vraisemblablement, semble-t-il que le chroniqueur en question n'était pas l'auteur du guide d'abord, et vraisemblablement, le chroniqueur n'a jamais mis les pieds à Montréal. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois, on a quand même régulièrement, justement, bon, peut-être en lien avec ce fameux Eldorado du Québec, on a des articles et des entrevues et des reportages sur Montréal et point de vue de la France, évidemment, et souvent c'est un peu
Une accumulation de
ça peut être
clichés,
aller,
hein,
ben,
disons-le.
disons que ça peut aller, c'est ça aussi, on tombe dans le cliché, on tombe dans l'erreur, on tombe dans
Bien sûr.
l'exagération peut-être, et donc bref, c'est un peu, on a une sorte de phénomène un peu, nous on a une famille rigolée évidemment,
Bah, moi, je vous
mais
avoue,
bon,
si je
c'est
peux
un
me
peu gênant
permettre,
quand
ça
même.
ne me fait pas rire du
Oui.
tout. Ce qui se pose comme problème, c'est que on a la même langue, on parle français, et je pense que pour beaucoup de donc Français de France, en se disant ça, en arrivant au Québec, on s'imagine que la culture est la même, ou alors qu'on va être accueilli sur un tapis rouge parce qu'on vient de France. Il y a souvent ce sentiment-là de les Français qui sont le roi du monde, alors que pas du tout. On a certes une histoire commune, mais la culture est différente. Et on parle aussi là d'ouverture d'esprit. Quand on arrive dans un nouveau pays, bah, il faut peut-être un peu se remettre en retrait, observer la culture, essayer d'accepter les codes et de s'y faire, quoi, tout simplement.
Parfait. Mais donc, on espère donc que votre podcast saura corriger le tir de peut-être vos confrères et condisciples qui ont légèrement erré. Linda Achour, journaliste, animatrice basée à Paris, merci d'avoir été
Merci
avec
à vous.
nous. Et à tous ceux qui nous écoutent, je vous dis également merci et à la prochaine.